La crise actuelle et les mesures qui en découlent suscitent de nombreuses interrogations, même des tensions, au sein de la société, aussi bien dans les médias que dans les échanges que nous avons dans la vie courante. Il n'est pas difficile de constater à quel point le sujet cristallise les passions. Mais comme souvent en pareil cas, des questions intéressantes viennent en périphérie de la discussion. Comme par exemple celle-ci au pluriel. Comment se fait-il que nous ne parlions jamais en Église des sujets qui agitent la société ? Les gens sont troublés et nous continuons nos cultes et nos rencontres comme si de rien n'était, comme si nous n'en tenions pas compte, sans rien modifier de nos programmes d'enseignement, de l'enseignement de prédication, de l'enseignement d'école du dimanche, avec en creux peut-être la question « Sommes-nous sourds aux souffrances du monde ?» Et j'ai trouvé ces questions intéressantes parce qu'elles nous renvoient tous, aussi bien les membres que les responsables de notre assemblée, aux attentes que nous pouvons avoir envers l'Église et les uns envers les autres. Et on soupçonne qu'il existe un seuil de légitimité de ces attentes. On peut également s'attendre à ce que ce seuil évolue au gré des circonstances, des événements personnels et collectifs. Et le texte duquel nous partirons pour explorer ce sujet se trouve dans l'Évangile de Marc. Et en fait, ce sont plutôt deux textes introductifs à deux récits bien connus, qui sont les deux récits que fait Marc de multiplication de pain. Et donc le premier texte se trouve dans Marc au chapitre 6 à partir du verset 34. Je lis. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Et suit bien sûr le texte de la multiplication des pains proprement dite. Et je tourne la page, je saute au chapitre 8, à partir du verset 1. Deuxième texte introductif à la deuxième multiplication. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était réunie et ils n'avaient pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger, ici, dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Même chose, suit le récit de la deuxième multiplication. Et ces deux passages nous montre Jésus face aux besoins de la foule, des foules venues l'écouter. Et ces deux textes évoquent sa compassion à l'égard des personnes, à l'égard de leurs besoins. Mais alors que le second nous montre un Jésus compatissant avant tout pour... le second nous montre... Alors que Jésus nous montre un Jésus compatissant à l'égard de leurs besoins physiques, ils n'ont rien à manger, nous le voyons compatir dans le premier texte, avant tout pour le vide laissé par l'absence d'un conducteur spirituel, d'un berger, pour les enseigner. Et ici, donc, au chapitre 6, Marc cite une parole du livre des Nombres, Mais on ne peut s'empêcher de penser au texte annonciateur du Messie en Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et quand on voit ce que ça donne, on est reconnaissant d'avoir en Jésus la personne, en la personne de Jésus, le conducteur de nos vies et de notre troupeau. Si maintenant nous observons les disciples pour discerner, essayer de comprendre ce qui fait l'objet de leurs préoccupations à l'égard de ces mêmes foules, nous les trouvons, dans les deux cas, presque en décalage avec les préoccupations de Jésus. La première fois, ils s'adressent à Jésus pour lui rappeler que ces gens ont faim tout de même, presque lui reprocher, comme pour lui reprocher que l'intendance ne suit pas. Et la deuxième fois, ils semblent pris de court, devancés par Jésus, dans la prise en compte des besoins matériels de tous ces gens. Bref, ils ne font jamais bien. Combien de fois est-ce que je ne me suis pas senti ainsi défaillant face aux besoins des autres, soit carrément que je ne les vois pas, soit que je les vois, mais que je me trouve impuissant à y répondre de quelque manière que ce soit. Combien d'attentes déçues, combien de personnes, dans l'Église et en dehors, et jusque dans ma propre famille. Le constat est accablant, il serait même désespérant. Si Jésus n'était pas là pour remettre les choses en perspective et nous rappeler que lui seul connaît vraiment, complètement, exhaustivement tous nos besoins. Il sait les hiérarchiser, les prioriser, leur donner une juste mesure. Moi, je suis très frappé du fait que sa compassion va vers les besoins spirituels de la foule lors du premier épisode et qu'il va passer un long moment à leur enseigner, nous dit-il, beaucoup de choses. Mais je suis également frappé par sa compassion envers les foules qui le suivent depuis 3 jours lors du deuxième épisode et qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et s'il met la priorité sur ce besoin à cet instant, il s'agit bien sûr d'une priorité temporelle et non hiérarchique. Bien sûr, la vie est plus que la nourriture. Bien sûr, le corps est plus que le vêtement. Il nous l'a dit lui-même. Mais cependant, tous ces gestes tournés vers la réponse aux besoins physiques, matériels, affectifs, psychologiques, nous montrent qu'il est capable de prendre en charge la globalité de nos existences. Mais revenons à nos questions initiales. Pourquoi ne parlerions-nous jamais en Église des sujets qui agitent notre société? Et d'abord, que ferait Jésus au cœur de cette pandémie en ce début du XXIe siècle? Je pense qu'il serait bien hasardeux de tenter de répondre à la question, mais peut-être nous pouvons faire un parallèle entre son époque et la nôtre, parce que nous pouvons peut-être être tentés de penser que la situation d'aujourd'hui est infiniment plus complexe que n'était celle du premier siècle. Que peut-être les priorités de ce temps, les préoccupations de ce temps étaient plus basiques. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est sans doute un peu vrai, mais en partie seulement. Examinons le contexte d'un peu plus près. Sur le plan religieux, les repères essentiels au culte sont là, avec le temple et les sacrifices. Mais divers partis religieux s'affrontent, en particulier les pharisiens et les sadducéens, tandis que d'autres groupes, comme les esséniens, prônent l'ascétisme et l'isolement de la société. De faux messies surgissent, ça et là, entraînant dans leur foule dans leur sillage des foules vite désenchantées. Au niveau politique, le pays est gouverné par un roi installé par Rome et considéré par le peuple comme un demi-juif. En réalité, si l'identité culturelle et religieuse du pays semble préservée, la domination romaine, païenne et brutale, est vécu comme une humiliation honteuse et écrasante. Sur le plan économique, Rome a mis le pays en coupe réglée et prélève un tribut exorbitant. Certains, comme nombre de collecteurs d'impôts, profitent de cette situation et d'une absence totale de contrôle pour s'enrichir personnellement au détriment des personnes sans défense. Des groupes activistes, les sicaires, les zélotes, tentent de provoquer la révolte du peuple. La pauvreté est omniprésente, la lèpre fait des ravages et elle met de nombreuses vies au banc de la société. Tout handicap physique, mental, est source d'exclusion et de pauvreté. Le contexte biblique un peu plus immédiat à notre passage est la mort prématurée de Jean-Baptiste, qui vient d'être décapité par Hérode dans des circonstances affligeantes, alors qu'un espoir semblait poindre à travers son ministère. Alors, autre temps, autre problème, direz-vous, mais il était probablement aussi difficile pour un croyant de ce temps de trouver son chemin, un chemin de justice et de droiture dans la complexité de ce dédale. Dans ce contexte, j'imagine que les questions que chacun se pose sont nombreuses. Si certaines paroles de Jésus nous permettent de comprendre qu'il n'est ni ignorant ni insensible au désarroi des victimes de cette situation, nous devons reconnaître que l'essentiel de son enseignement est orienté vers ce qui doit changer en nous, dans l'intimité de notre cœur et de notre pensée, dans notre relation avec lui, avec le Père, dans nos rapports fraternels et avec celui qui l'englobe sous le terme de mon prochain, notre prochain, c'est-à-dire toute personne qui croise notre route, même hostile et pour quelque raison que ce soit. Jésus ne parle-t-il jamais des sujets qui agitent la société ? Si, un peu. Il évoque Jean-Baptiste et il dénonce le traitement indigne qui lui a été réservé. Il fait même référence à un fait survenu localement avec le drame causé par l'effondrement de la tour de Siloé. Sur un plan sociétal, il met les riches face à leurs responsabilités à l'égard des pauvres. Concernant l'exercice autoritaire du pouvoir, il dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Mais si ce constat est sans appel, c'est pour qu'il serve de contre-exemple à l'Église qui va fonder. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et d'indiquer son propre exemple, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans ses discours sur les derniers temps et le jugement à venir, nous le voyons aussi dénoncer les injustices accumulées au cours des siècles. Et s'il le fait, c'est plutôt pour calmer l'impatience et la soif de justice des disciples et leur rappeler que c'est à lui qu'appartiennent la vengeance et la rétribution des œuvres de chacun. Le trait commun à bon nombre de ses commentaires et assertions qu'il fait sur l'actualité de la société de son temps est une exhortation pressante à s'examiner personnellement et prioritairement. Même sa dénonciation des abus des pharisiens qui touchent le domaine religieux dans lequel il s'investit pleinement, même cette dénonciation est immédiatement suivie de la mise en garde de ne pas les imiter. Et il me semble que là, peut-être, le mot « crainte » prend tout son sens. La crainte, c'est la haine du mal, dit un proverbe. Mais c'est le mal qui est en moi que je dois craindre, bien plus que celui que je vois chez les autres. Dans tout ce que dit Jésus sur telle ou telle personne, sur telle ou telle attitude, ou encore dans ces paraboles, il y a quelque chose pour moi. Notre capacité à accueillir, nous approprier et mettre en œuvre tout ce qui sort de sa bouche est l'un des marqueurs de l'action de son esprit en nous. Et en cela, nous ne serons jamais aussi pertinents que lui. Car d'une part, lui sait tout de nous, connaît tous nos besoins, et d'autre part, il est parfait, et nous non. Il me sera donc toujours difficile de prétendre, dans l'image qu'il a donnée, ôter la paille qui gêne l'œil de mon frère, du moins tant que je ne serai pas certain qu'aucune poutre aveugle le mien. Tout ceci pour dire, nos problèmes du XXIe siècle, s'ils sont différents de ceux qui se posaient du temps de Jésus, diffèrent probablement en peu de choses sur les conséquences qu'ils font peser sur nos vies. Pour faire simple, disons qu'on ne se prend pas la tête sur les mêmes choses, mais on se prend quand même bien la tête. Et c'est là que l'enseignement de Jésus devient intemporel. Tout ce qu'il a fait, dit, enseigné, est très grande partie, peut-être en totalité, même transposable dans notre siècle. Et surtout, la constante vraiment remarquable de tout son enseignement du premier au dernier jour, c'est la cible qu'il a visée, nos cœurs, nos pensées, et l'objectif qu'il s'est formé, qu'il s'est fixé, les réformer. Ton monde est injuste, toi sois juste. Tes voisins sont pervertis, toi sois droit. Et peut-être avons-nous là une clé de compréhension de l'exhortation de Paul aux chrétiens, qu'il appelle racheter le temps. Nous le voyons, Jésus n'est pas déconnecté des préoccupations qui agitent la société de son temps, mais il ne se laisse pas non plus gagner par son agitation, précisément parce que c'est de l'agitation. Et nous, son peuple, nous ne sommes pas appelés à être agités, mais actifs. À tenir le cap donné par le berger fondateur, qu'on aime rappeler ici, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Nous n'accomplirons pas la mission de Jésus que Jésus nous a confiée si nous agissons autrement que nous l'avons vu agir lui-même. Les crises arrivent, nous les constatons, nous essayons d'y faire face et nous nous adaptons. Mais surtout, nous nous souvenons de ses paroles. Il nous avait dit que ça, et plein d'autres choses, ça arriverait. Il nous avait dit que ce n'est pas ça qui menacerait l'Église, mais que nous devions bien plutôt veiller sur nous-mêmes, sur nos pensées et sur nos paroles. Et il nous avait dit qu'il serait avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens de l'histoire à vivre une crise, sinon mondiale, du moins de grande ampleur. Dans un de ses livres, Jonathan Henley, qui sera notre orateur, vous aurez l'occasion de le rencontrer lors du week-end d'église à l'automne, enjoint les chrétiens soumis à une crise à penser à l'après et à le préparer. Et ce, avant même que la crise soit terminée. C'est assez drôle parce que ça fait un peu écho au monde d'après, hein, dont on entend parler parfois, alors que une seule pensée nous obsède, revenir à comme c'était avant. Un moment que, je vous rappelle, nous trouvions détestable. Je trouve intéressante l'idée de me préparer à être le disciple d'après. Je trouve intéressante l'idée de nous préparer à l'Église d'après. La deuxième question était, serions-nous sourds aux souffrances du monde ? Je vous propose de suivre la même logique, de revenir au modèle de Jésus. Jésus serait-il resté sourd aux souffrances du monde ? À eux seuls, les deux textes d'aujourd'hui suffiraient à prouver le contraire, mais en plus, ils sont bien loin d'être les seuls. Et si Jésus nous a donné ce modèle, comme beaucoup d'autres, c'est bien que c'est aussi ce qu'il attend de nous. Les exhortations à la compassion ne manquent pas, pas plus dans les évangiles que dans les épîtres. Mais qu'en est-il dans les faits? J'ai été frappé de lire le témoignage que, par exemple, lors des épidémies des siècles passés, les chrétiens payaient un plus lourd tribut à la maladie que le reste de la population parce qu'ils s'exposaient en venant en aide aux malades. On peut nuancer, parce qu'ils le faisaient sciemment, certes, mais ne pas savoir est aussi une source d'angoisse et de peur. Peut-être, oui, nous avons pu rester sourds aux souffrances du monde, en particulier depuis qu'il est frappé par ce virus. Pardon. Peut-être que nous n'avons considéré notre prochain qu'en termes de statistiques, sans discerner les souffrances individuelles. Pardon. Peut-être n'avons-nous pensé qu'à nous-mêmes dans cette épreuve, à nos proches, à notre communauté, sans compassion comme Jésus l'aurait fait pour le monde. Encore pardon. Et quand nous n'avons pas su voir parmi nous que certains souffraient de cette situation, et peut-être pire, quand nous l'avons ignoré, pardon. Mais je veux rappeler qu'à aucun instant, la prière du dimanche matin n'a cessé, ni sous une forme, ni sous une autre. Et je veux rappeler que nous avons prié souvent, régulièrement, en pleurant pour les malades, dans les hôpitaux, pour ceux qui meurent seuls, sans Dieu et sans leurs proches. Tous les soignants qui s'exposent, eux et leurs familles. Je veux rappeler que nous avons prié pour tous ceux d'entre nous, situation isolée et éloignée de la communauté. Quand nous ne savons que faire, quand nous avons l'impression que nous ne pouvons rien faire, la prière d'intercession demeure l'acte concret par lequel nous continuons d'agir. Ce n'est pas parce que nous agissons ailleurs autrement que toute prière devient superflue, bien au contraire. Car c'est aussi dans la prière que nous sommes interpellés par l'Esprit, par un frère, une sœur, éclairés sur des besoins insoupçonnés, suscités pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Nos réunions de prière ont connu des moments forts où des personnes ont fait état de souffrance et de détresse dont tous les participants se sont saisis pour les porter devant le Seigneur. Ah, peut-être, en effet, ne parlons-nous pas beaucoup dans nos cultes des sujets qui agitent le monde. Simplement, nous essayons d'en parler à la façon des disciples de Jésus que nous voulons être. Et nous en parlons peut-être en des moments plus ciblés, comme la réunion de prière du dimanche matin, ou en des rencontres plus intimes, comme les groupes de maison. Au global et en conclusion, il faut bien admettre que nous demeurons imparfaits, souvent défaillants, incapables de combler tous les besoins comme Jésus l'aurait fait. Un peu comme les disciples, nous sommes souvent en décalage dans notre perception des besoins des personnes, et même quand nous les percevons, nous sommes si souvent désemparés. Mais loin de nous retrancher derrière cette réalité pour qu'elle nous accable et nous pousse à renoncer à toute forme d'action, nous pouvons nous saisir d'une autre réalité. Belle, grande et glorieuse. Pour la proclamer, nous la chantons souvent. Le secours des hommes est en Jésus-Christ. Et je voudrais vous laisser avec une parole de Jésus qui l'a donné à ses disciples avant de subir la crucifixion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen.